Qu'est-ce que je viens de dire, ce mec?
Asseyez-vous!
On ne bouge pas!
S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse!
Dieu, qui c'est ce zigoto? Un petit comique, hein? Langage et guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine.
Ce jeu, il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine.
Je m'appelle Berlin Noël, j'ai 29 ans, bientôt 32. Je suis député.
Fuck my wife.
What?
Fuck my wife.
Reste toi-même. C'est eux les cons, ils me font honte.
Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Ça va trancher, chérie.
Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Tous les jeudis soirs sur Radio Campus Tour, plan séquence.
Oh, c'est un générique un peu plus long que d'habitude, je ne savais pas, on avait une version longue du générique. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour votre émission Plan Séquence. Et c'est la dernière fois, non pas de l'émission, mais la dernière fois qu'on est en direct le jeudi soir. Voilà, on est le jeudi 1er août et à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire le samedi 31 août, on fera notre rentrée, le samedi. À midi, à l'heure de la rediffusion, puisque comme on vous l'avait annoncé, les rediffusions sur la grille de la radio sautent à la rentrée. Il n'y aura plus de rediffusion de toutes les émissions. Donc on fera notre direct directement le samedi pour une meilleure organisation et pour vous parler peut-être plus de films et que les émissions soient mieux construites, peut-être avec plus de contenu que certains jeudis soirs. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, ça fait deux jeudis qu'on n'a pas fait d'émission. Et pour cette dernière de la saison, je suis avec Charles. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va très bien et toi ?
Ouais, très bien. Alors, tu n'as pas trouvé de chronique.
Non,
c'est ta cogité. Hein.
J'en parlais tout à l'heure, mais j'ai regardé que des films de merde.
Tu peux faire une chronique sur les films
Oui, non, mais à chaque fois je dis non, j'aime pas dire du mal des films que je n'ai pas aimés. Mais bon, et parfois il y en a qui tendent la perche. Mais là, non, j'avais même rien à dire de drôle ni quoi que ce soit sur ces films-là. Donc, j'évoquerai ça.
Mais peut-être du coup qu'on parlera des Jeux Olympiques.
Peut-être.
Parce que pour le coup, il y a du suspense, il y a de la tension, il y a des surprises, il y a de la joie.
On aurait pu faire un truc sur les films de sport.
Mais oui, complètement. On l'a déjà fait. Et on aurait pu, ou des films liés aux Jeux Olympiques. Pour cette émission, on ne parlera pas de ça. On verra à la fin. Mais on va consacrer une bonne partie de l'émission à la soirée de l'horreur qui aura lieu le 23 août prochain au Cinéma Studio, puisqu'on a Jérôme qui est dans l'émission ce soir avec nous. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Oui, ça va pas mal.
Pas trop chaud ?
Non, j'ai juste perdu 3 litres de flotte. C'est bon.
Et avant d'évoquer avec toi la soirée d'horreur, peut-être quelques petites news. Vous dire, c'est le samedi aussi, 31 août, on a vu ça en regardant sur Internet, où est-ce qu'on pouvait voir le Napoléon d'Abel Gance. Hein, Napoléon d'Abel Gance, c'est un film de patrimoine qui a mis des années à être restauré, un film des années 20 qui dure plus de 7 heures. Et on se disait, est-ce que dans le coin, on aura l'occasion, la chance de pouvoir le voir ? Et en surfant sur Internet, on a vu qu'il y avait des projections à Tours, le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. Donc si vous êtes dans le coin, contrairement à nous, je lance un appel d'ailleurs au Cinéma Studio, nous écoute, changez la date s'il vous plaît.
On n'est vraiment pas content.
Si vous pouvez reculer au week-end d'après.
Imitez en otage, s'il vous plaît.
Ouais. On ne vous rend pas votre comptable. Si vous ne changez pas la date de Napoléon, alors merci Jérôme pour cette idée merveilleuse.
Je suis sûre que c'est encore possible de changer la date.
Ouais.
Les programmes ne sont pas sortis.
Mais je suis sûre que c'est possible.
En tout cas, le samedi 31 août, 14h15, 14h30, vous pouvez voir la première partie. Et le dimanche 1er septembre, la deuxième partie de ce film. Il est projeté dans très peu de salles en France. Il y a quelques séances si vous regardez sur Allociné. Mais c'est quand même assez rare. plutôt à Paris, à la Cinémathèque. Il sera reprojeté d'ailleurs au mois de septembre à la Cinémathèque française à Paris. Là, en ce moment, c'est un peu restreint avec les Jeux Olympiques. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, ratez pas. Ça a l'air d'être une merveille de reste de film.
Bah oui, effectivement, ouais, tous les gens qui m'ont dit l'avoir vu ont trouvé ça extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un film très très rare. Je sais qu'il existe quelques DVD, j'ai aperçu, mais de versions totalement incomplètes. Hein. Il y a peut-être 2 heures de film ou choses comme ça. Là, c'est la première fois qu'on va le voir entier, enfin en tout cas avec tout ce que les restaurateurs ont pu retrouver du film et restaurer. Ouais,
et on vous conseille, je ne l'ai pas encore écouté, mais j'en ai entendu le plus grand bien. Il y a eu un webinaire le 1er juillet dernier, donc, que vous pouvez retrouver sur le site de l'AFCAE, l'Association française des cinémas art et essai. Donc, c'était le Napoléon vu par Abel Gance, par Georges Maurier. Et c'est un webinaire qui dure un peu plus d'une heure, qui explique tout ce travail de restauration du film. Donc ça a l'air assez passionnant. Et je vous conseille aussi un podcast que j'avais écouté il y a quelques années sur France Culture qui s'appelle « L'homme qui voulut être Napoléon ». Parce que ça nourrit beaucoup de fantasmes aussi, ce film. Et c'était assez super intriguant et intéressant, ce podcast. On vous le mettra dans notre propre podcast d'émission. Parce que on est comme ça. En autre news, vous dire qu'il y a 3 films qui trustent les entrées quand même en cet été 2024. C'est toujours un petit truc en plus qui va dépasser les 10 millions d'entrées. On vous en parlait déjà avant, il y a quelques semaines. C'est un film qui n'arrête pas d'engranger les entrées, un bouche à oreille assez dingue. Je sais que vous le passez en ce moment, il marche bien aussi au studio. Oui. Donc
Et pourtant, on l'a pris il y a 2 semaines de mémoire, donc il en était à sa 12e semaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et la salle a été remplie.
Ouais, c'est dingue.
Ouais, c'est vraiment. Il va faire. De toute façon, les distributeurs, ils veulent laisser le temps. Il faut que ce soit historique, qu'il mette plus de 10 millions.
Il va dépasser le dîner de cons. Après, il n'ira pas.
Il n'ira pas au ch'ti, mais.
Intouchable, mais en tout cas. Oui, c'est un beau. Je pense que personne ne s'attendait à ce score-là pour un premier film. Il est rentable, hein, c'est bon, ça y est. Et puis, autre film pareil, et pourtant il dure 2h58, c'est Le Comte de Monte Cristo, avec Pierre Niney, qui, pareil, a dépassé les 5 millions d'entrées. Mmh. Donc, c'est assez. Pour un blockbuster, en plein été, avec tous les événements qu'il y a en ce moment. Faut le faire quand même.
C'est sur la longueur, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que lui, c'est pareil, je crois qu'il en est à sa 5e semaine.
Il est sorti fin juin, c'est ça.
Et c'est pareil, il marche encore. La longueur, ouais. Ouais. Et pourtant, à côté, t'as plein de gros trucs aussi.
Il y a Moi, Moche et Méchant qui cartonne aussi, Vice Versa qui a dépassé les 7 millions. Mais par contre, à côté, faut bien le dire, il y a ces 4 films qui fonctionnent à balle, mais à côté, les films à réessayer, c'est compliqué l'été, quoi. Là, pour le coup, il n'y en a pas trop qui émergent, quoi, tout ça.
Émergent et il n'y en aura pas du tout au mois d'août, en plus. Là, même pas.
Il va falloir attendre septembre, fin août, vraiment, avec Jacques Audiard qui sort fin août. Il y a aussi le roman de Jim des frères Larieux que vous aviez eu en avant-première au studio, qui est super.
Qui a l'air magnifique. Hein.
Et qui sort pareil, courant du mois d'août, mais je crois fin août plutôt. Donc il va falloir attendre septembre pour les films à réessayer. Là, il y a un creux, il n'y a que soit des gros films d'animation, soit des...
Après le mois d'août, c'est vrai que c'est toujours un peu creux. Mais cette année, je trouve que c'est encore plus fou à ce niveau-là.
Et puis, l'année dernière, il y avait par exemple Oppenheimer et Barbie, quoi. Oppenheimer, c'est des films aussi à réessayer, même si c'était un blockbuster. Là, il n'y en a pas, cette année.
Non.
On a les Jeux Olympiques. Voilà. pas tout à voir. Je ne sais pas si tu avais d'autres news, Charles.
Eh bien, non.
On peut enchaîner sur la soirée de l'horreur qui aura lieu, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le vendredi 23 août au cinéma studio. Et peut-être avant de parler de la programmation, on peut s'écouter une musique qui est tirée d'un des 3 films que vous avez sélectionnés. C'est le thème de Carrie, qui est sorti en 1976. retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, pour votre émission Plan Séquence. Et on continue à parler de la soirée de l'horreur qui aura lieu le 23 août prochain au Cinéma Studio. Alors Jérôme, peut-être en première question, trois films qui sont au programme. On parlera des nombreuses animations qui parsèment la soirée. Mais d'abord, comment c'est la sixième édition, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire d'où c'est venu déjà cette envie de faire cette soirée de l'horreur au studio? Et puis après, comment la programmation s'est faite?
Alors la première envie, ça a été en fait de faire une soirée qui soit organisée par les salariés des studios. Parce que toutes les soirées ou les festivals, c'est les bénévoles, les membres actifs des studios, aidés par les salariés, bien sûr, hein, puisque c'est notre travail, hein, c'est comme ça qu'on en vit. Mais là, l'idée, c'était quand même d'organiser quelque chose, d'initier quelque chose. Le deuxième point, c'était qu'on voulait faire quelque chose au mois d'août, puisque traditionnellement, c'est une période très calme. Et nous, on voulait essayer d'organiser quelque chose autour. Hein. On faisait un peu le pari de se dire il y aura quand même du monde. Et ensuite, de ce que je me rappelle, parce que c'est vrai que ça remonte un petit peu, parce que c'était en 2017, la première édition, mais on avait commencé à travailler dessus, à la fin de l'année 2016. Je pense que la thématique horreur est venue assez rapidement parce que à ce moment-là, il n'y avait plus vraiment de propositions. Parce que Mauvais Genre n'avait plus d'édition, je crois, depuis ça faisait 2-3 ans, je crois, de mémoire, hein, bien sûr. Et puis parce qu'on aime ça, l'horreur aussi. Et puis oui, on voulait inscrire ça, l'horreur dans les studios pour montrer que un peu casser aussi l'image sérieuse, on va dire, ou un peu intellectuelle, que on peut un peu nous coller, même si depuis quelques années ça va, on détruit un peu ce truc là et ça fonctionne. Et voilà, et donc montrer des films d'horreur qui passent pas forcément dans la programmation classique, hein, parce qu'il y en a quand même qui passent, et montrer un peu tous les versants, c'est-à-dire à la fois le côté grand guignol, le côté vraiment pas on va pas chercher midi à 14h, on va vous montrer de l'horreur et du sang, mais aussi mettre en avant des réels qu'on apprécie, parce que la première année c'était Shaun of the Dead qu'on avait mis, le tout premier film, je viens d'y penser là parce qu'en fait le film fête ses 20 ans cette année, il va ressortir en copie 4K durant la fin de l'année, et je pense que nous on va pas tarder à le programmer aussi à ce moment là donc voilà, c'était un peu ça, montrer des films d'horreur, monter des réels qu'on aime beaucoup, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est un peu comme ça que plus le côté festif autour.
Et elle se fait facilement, cette programmation, avec parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer bien le genre horrifique au studio. Donc, est-ce que c'est simple de se mettre d'accord sur trois titres?
C'est des bagarres.
C'est des batailles.
C'est des bagarres.
Clash,
des clashs. Des battles royales. la séduction aussi. Hein, on joue comme ça aussi. Non. On essaie toujours de faire une programmation équilibrée. On a envie de montrer des films de plusieurs nationalités. On essaie de faire aussi différentes époques. On veut essayer de faire pas trop dans le récent, mais aussi quand même un peu. On veut essayer d'aller assez loin, mais pas trop non plus. Voilà. Et on veut aussi diversifier au sein même. Hein, on veut pas balancer trois films de vampires ou trois films de donc c'est mélangé à ça. C'est on n'arrive jamais à faire. On a toujours un peu des points communs dans les films qui arrivent. Et puis l'autre problématique étant que certains films qu'on veut ne sont pas forcément distribués, sont bloqués ou des choses comme ça. Un peu donc. C'est toujours un peu folklore entre la première feuille de départ de ce qu'on aimerait et ce qui arrive. Mais globalement, on arrive toujours, je trouve, à trouver un bon équilibre et à proposer un bon truc. Parce que des fois, il y a certains films qu'on trouve pas forcément intéressants, mais dans le cadre des deux autres aussi, on se dit oui, en fait, ça fonctionne. Ouais. Voilà, c'est là. Des fois, il y a des films qu'on peut mettre de côté en se disant non, mais en fait, ça fonctionne avec les deux autres. Tu vois. Et puis après, c'est les propositions qui arrivent, hein, c'est les envies, c'est donc on se les regarde, on les re-regarde, tiens, vas-y, regarde ça, bon, on enlève ou pas. Enfin voilà, c'est aussi intéressant. Hein. Je sais que par exemple pour cette année, il y avait le dernier film, je ne l'avais jamais vu, donc je l'ai regardé quand même pour voir un petit peu et des choses comme ça. Donc on a toujours des envies. Moi, je sais que par exemple, une des envies que j'ai que j'ai depuis quelques années et qui est assez compliqué finalement, c'est de proposer les films d'horreur des années 90. Et là, moi j'avoue, c'est quand même compliqué d'avoir des droits. Ouais. Ah mais alors typiquement, c'est Candyman, le film en général. Et ben, c'est une galère pour trouver les droits. Et pourtant, je trouve ce film incroyable, vraiment, mais d'une une beauté esthétique, une musique grandiose. Enfin voilà, c'est quand le remake est sorti, je me suis dit, ben, ça va être possible. Mm. Non, impossible. Bon.
Okay. C'était la période où il y avait encore des films d'horreur avec un... À l'époque, déjà, les films en général avaient un thème musical dont on se souvenait. Et effectivement, Candyman a un thème. Il y avait plein de films d'horreur qui avaient un thème musical qui restait en tête. Et,
Pour l'info, c'est Bernard Rose, en fait, le compositeur. Ouais. Donc, le truc, c'est assez incroyable de te dire Bernard Rose a fait toute la musique d'un film qui était un peu taxé comme un slasher à l'époque, alors qu'il dépasse vraiment ça. Enfin, voilà, donc c'est toutes ces envies. Donc, du coup, on les garde de côté aussi. On essaie de voir pour l'année prochaine et ainsi de suite. Voilà, un peu comme ça se déroule là.
Donc là, tu parlais d'un film peut-être un peu plus, on va dire, de plus de patrimoine en tout cas. Et là, cette année, c'est Carrie, dont on a entendu le thème tout à l'heure. Donc un film de 1976. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce film de
Oui, Brian de alors, alors ça, pour le coup, celui-ci, c'est un peu moi qui l'ai mis en avant. Je dis un peu, mais en fait, carrément. Quoi. J'ai fait du forcing. J'ai fait du forcing. C'était vraiment... non, mais ça va. Quoi. Il faut quand même mettre de Palma sur grand écran. Je veux voir Carrie. C'était un peu ça. Non, quand même, déconnez pas. Carrie sur grand écran. Donc, du coup, c'était... Alors, pour le coup, il y a eu des débats parce que certains, c'était... mais ça fait pas peur. Quand même, moi, je trouve ça... Alors, je trouve que le film est véritablement angoissant. Avec tout ce qui touche autour de la mère de Carrie, enfin des choses comme ça. Mais en effet, c'est vraiment comme quoi la peur peut être subjective. En tout cas, tu n'as pas forcément peur des mêmes choses. Et du coup, on va faire le test. Moi, je tiens le pari que le film va peut-être faire rire au début en ce qui concerne les looks, parce que c'est un film vraiment de 76. Alors c'est de la pâte d'ef, c'est des coupes assez incroyables, enfin des choses comme ça. Et je pense que ça ne va pas trop la ramener plus on avancera dans le film. Parce que donc Carrie, c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King, donc de son premier roman. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Carrie White, qui a 16 ans, qui est au lycée, et qui, quand commence le film, donc avec la musique que tu as mis, la musique d'ouverture, elle prend sa douche et elle a ses règles. Chose tout à fait normale pour une jeune fille de son âge, sauf que pour elle, c'est la première fois et elle ne sait pas du tout ce que c'est. Et ses amis, enfin... ses amis, on va dire ses
camarades
de classe, plutôt, pas du tout ses amis, plutôt que justement l'aider, en fait, se moque véritablement au monde d'elle avec une méchanceté incroyable, j'en dis pas plus. Et en fait, Carrie White, on le découvre très vite, c'est une jeune femme complètement renfermée, c'est le vilain petit canard, elle est harcelée à son école depuis qu'elle va à l'école, et elle n'est pas aidée chez elle, puisque sa mère est une fondamentaliste chrétienne de tout ce qu'il y a de plus horrible. La maison où elle vit, c'est une horreur. Ben voilà, elle a tout pour se tirer une balle, j'ai envie de dire. Mais Carrie développe des pouvoirs télékinésiques au début du film et va peu à peu... Alors, j'allais dire s'en servir, oui, mais en fait, il y a tout un truc autour, en tout cas, qui vont... c'est à la fois son émancipation et sa malédiction. Voilà, c'est ce qui est fort à la fois dans le roman et dans le film. Le roman est intéressant parce qu'en fait, il prend le point de vue de Carrie, mais il sait aussi des extraits de journaux, des interviews, des entretiens. Enfin voilà, c'est un truc un peu melting pot. Et De Palma, lui, va véritablement se centrer sur Carrie. Il va vraiment beaucoup plus travailler sur les personnages adolescents. Alors, il y a Sissy Spacek donc, qui joue le rôle principal, qui était déjà connu, je crois, avec le film de Malick. Je crois qu'il était déjà sorti. Badlands était déjà sorti, je crois. Il y a John Travolta, qui est un de ses premiers rôles au cinéma. Lui, il était connu via une sitcom. Il y a Nancy Allen, qui est aussi un de ses premiers rôles, qui deviendra pendant un temps, je crois, l'égérie de Palma. Et tout ça compose des adolescents vraiment juste, hein, je trouve. Donc voilà, c'est un film qui, pour moi... Je pense qu'on risque de rigoler en revoyant un peu le look. Mais je trouve que c'est un film incroyablement moderne parce qu'il parle de harcèlement scolaire. Totalement. Enfin, vraiment, ça, c'est, j'en dis pas plus, mais pour moi, c'est hyper d'actualité, encore plus aujourd'hui. C'est un film qui... Il y a la, Bah, ce qui fait la force du film, c'est aussi la mise en scène de De Palma qui peut aller, enfin bon, c'est une palissade, mais il sait placer sa caméra, il sait être sobre quand il veut et il sait utiliser des effets remarquables quand il en sent le besoin, notamment sur la séquence finale. Et puis il y a d'autres moments, enfin il construit des décors là. Je reviens sur la maison de Carrie White, c'est quelque chose d'assez incroyable en termes de lumière, en termes de positionnement des objets qu'il y a dans la pièce. Et c'est un film, c'est vraiment un film de Palma, je trouve, parce que t'es déjà là dans un film où les personnages alors tortionnaires et principalement la mère de Carrie sont des gens qui vivent dans leur propre univers, dans leur propre réalité, où ils sont les maîtres et qu'il y a une cour autour, en tout cas ce qu'eux, ils pensent être une cour. Et ça, tu le retrouves beaucoup dans les films de De Palma, que ce soit Scarface ou Outrage, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un de ses meilleurs films. Et ouais, c'est un film d'horreur remarquable. Il lance la carrière... c'est le film qu'il fait juste après Phantom of the Paradise, qui n'a pas été un gros succès, alors que Carrie est vraiment un très gros succès. Ça lance la carrière de Stephen King aussi, encore plus, parce que même le roman avait bien fonctionné, mais à partir du film, alors là, il s'envole, le monsieur. Voilà, je trouve que ça fait partie, c'est vraiment des meilleurs films des années 70 en termes horreur, fantastique. Je prends le pari que le film va vraiment plaire, même si... et je pense qu'il va vraiment faire peur, même si certains en doutent.
Ouais, moi, je le trouve assez brillant aussi. Et puis, Palma avait déjà travaillé son esthétique déjà sur plusieurs films avant. Et là, ça marche vraiment très bien. Et il est bien meilleur. Par exemple, il y a eu un remake il y a quelques années qui est ridicule, enfin, qui ne fonctionne pas, en fait. Il y a pas, déjà, l'actrice est très mal choisie, je trouve. Il est plus violent. Mais finalement, c'est que ça, quoi. En fait, il est plus trash, mais c'est pas ça qui est intéressant.
Et c'est ce qui est fort, parce qu'en fait, il a coupé dans le roman, notamment justement le final, en fait, dans le roman est en deux parties. Je voudrais pas trop en révéler, hein, même si on parle d'un film qui a quoi, bientôt 50 ans. Mais en gros, le roman, sur la dernière partie, c'est divisé, on va dire, en deux. Et en fait, il y a toute une partie qui squeeze totalement. Qui ne met pas, et au final il se concentre que sur la première partie, et pourtant quand il fait ça, bah, ça rend le truc encore plus fort, encore plus efficace. Et après il y a tous ces effets qui se met là, notamment en termes de split screen, et la couleur, ça fait vachement penser à du Argento aussi à ce moment là c'est assez fou, toute cette espèce de rouge qui arrive.
Cet après-midi, dans les films que j'ai essayé de regarder et que je n'ai pas tenu jusqu'au bout, j'ai essayé de regarder Carrie 2, The Rage, qui est sorti en 99. Et j'ai tenu vraiment l'intro du film.
Ah non, mais c'est fou.
C'est vraiment... Déjà, le générique est moche. Et dès l'intro, on voit quand j'ai vu la gamine jouer, la mère, tu vois. Non.
On ne va pas aller
là. Non, c'est pas la peine.
Tu vois, on parlait années 90. Bah, je pense que un énorme paquet des films d'horreur des années 90 sont beaucoup plus mal vieillis que des films des années 70.
Ah, complètement, ouais. Ça, c'est vrai, ouais.
Je vous propose qu'on s'écoute une musique, comme ça on pourra parler aussi du deuxième film de cette soirée. Alors pas le thème de Evil Dead Rise, mais Evil Dead le premier.
Le tout court. Thank you.
Bon, et vient des sur plan séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Gustave et moi, on ne fait que des plans séquences quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
De retour sur Radio Campus sur le 99.5 FM. On va parler du deuxième film, Jérôme, de cette soirée. La séance aura lieu à 20h45, si je ne me trompe pas.
Pour la deuxième.
21h. Ah, c'est le rouge, là. J'avais du mal à lire sur le papier.
Tu ne sais pas lire les lettres de sang.
Ouais, exactement. Entre le 1 et le 0. Et Dead Rise, du coup, qui est sorti. Alors, pour le coup, un film récent.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que les deux autres sont des films récents. Le Evil Dead Rise 2023, ça a été un peu le... On voulait le mettre. On l'aime beaucoup. Alors quand je dis en termes global, moi je l'aime peut-être moins que d'autres de mes copains, mais je le trouve véritablement très très efficace. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que les Evil Dead, au final, pour une série de films qui a été un peu oublié puis repris par d'autres, fonctionne quand même pas mal pour les 5 opus qu'il y a pour l'instant. Et puis c'est un film qui nous a été demandé assez régulièrement, donc on s'est dit écoute, on va faire plaisir à notre public. Il est assez ce que j'aime bien, c'est déjà c'est le 5e opus, mais c'est pas du tout une suite de films en fait. Donc du coup, tu peux très bien regarder ce film là, t'as pas besoin de regarder les autres précédemment. Et il s'éloigne. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, il s'éloigne, on va dire, à la surface, il s'éloigne complètement des autres Evil Dead. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une maison perdue dans la forêt avec les démons qui vont attaquer peu à peu les différentes personnes qui sont dans cette maison, parce que ces gens ont eu le malheur de lire le Necronomicon et de dire les phrases qu'il ne faut pas pour les invoquer. Là, on se retrouve carrément en banlieue de Los Angeles, de mémoire, banlieue d'Inverne, dans un immeuble. Donc vraiment, l'endroit pas du tout qu'on s'attendait là-dessus. Donc du coup, ça change. Et en même temps, ça ne change pas parce qu'on est toujours dans cette idée qui trône un peu dans les Evil Dead d'une véritable méchanceté familiale. Parce que là, à partir du moment que les démons vont attaquer et vont posséder une personne, ça va être la mère qui va être possédée et qui va vouloir tuer ses enfants. Et... elle y va pas par quatre chemins. Hein. C'est pas de l'horreur, on va dire, psychologique ou peu à peu en loose dé comme ça. C'est non. C'est vraiment elle sort les couteaux, quoi. C'est vraiment méchant. Et puis je trouve que c'est un film qui va au bout de son truc. Là c'est pareil. On n'est pas du tout dans du quatrième degré. On n'est pas dans du soft aussi. Vraiment le film. Va loin dans certains effets. Il joue sur un espèce de huis clos, puisque ça se passe justement dans cet immeuble et dans cet appartement. Voilà, je trouve que c'est vraiment un film totalement efficace, même si, moi qui a été Evil Dead et surtout le deuxième, ça fait particulièrement des films qui ont fait ma base de mon amour pour l'horreur. Donc, je garde une. On va dire qu'au-dessus trône Evil Dead 2 et de Sam Raimi. Mais honnêtement, je trouve ce film véritablement efficace. Je pense que sa méchanceté, en tout cas, ça va vraiment plaire. Enfin, quand je dis plaire, c'est... Non, mon Dieu, je sors de la salle. Ça, c'est un petit pari aussi un peu vicieux qu'on a. On se demande toujours s'il y en a un ou deux qui vont sortir de la salle.
Ça arrive
C'est déjà arrivé. Il y a eu The Descent. Il y en a deux personnes qui ont été claustro qui sont sorties. Et ça, je les comprends, parce que moi, quand je l'ai vu au cinéma à l'époque, je me suis pas senti bien. On avait eu quoi ? Je crois qu'on avait eu La Colline à des yeux, la première année, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très méchant. Pour le coup, il fait partie de ces films, je ne pense pas que je les reverrai avec plaisir. Pas parce qu'ils sont mauvais, hein, mais parce que vraiment, il y a certaines scènes, pour moi, j'ai plus vraiment envie de regarder ça. Et on avait eu The Devil's Reject aussi, mais c'est pareil, hein, ça, c'est du vilain Kraspek, qui est assez, on va dire, dans une approche un peu réaliste. Là, on n'est pas dans une approche réaliste, en tout cas en termes de visuel. Il y a quand même, j'aime bien, tout se passe de nuit, on joue beaucoup sur certains effets rouges, noirs, beaucoup de maquillage, d'effets au niveau des corps qui se disloquent, notamment, et plus ça va, plus c'est encore plus fou sur la fin, beaucoup de sang, mais on n'est pas du tout dans une approche, en tout cas, on va dire, une photo très, très réaliste, très craspec. Y a quand même un petit côté un peu... pas cartoon, mais en tout cas, il y a quand même une certaine distance à ce niveau-là, très dans le fantastique. Et puis, on est sur des personnages féminins aussi, puisque on a à la fois la mère, donc il est mort, mais les enfants sont protégés, eux, par la sœur, enfin leur tante, personnage que je trouve très, très bien écrit. Voilà, on est aussi sur des personnages féminins, ce qui est assez, enfin, j'allais dire rare dans le futur, pas du tout. Mais pour ce qui est de Evil Dead, là par contre, c'est déjà plus rare, parce que à la base de la trilogie Evil Dead, on va dire, c'est Ash, donc joué par Bruce Campbell, qui essaye de survivre contre toutes les trucs qui lui tombent sur la tronche, quoi. Voilà, c'est notre deuxième film.
Terrifier 2. Pareil, c'est tu penses que des gens peuvent. Je l'ai pas vu, je connais pas du tout. Je pense que des gens peuvent sortir de la salle.
Je te dirais que j'en suis persuadé à 90%.
Ah oui,
okay. Alors, à 99,5 même, je te dirais, tiens.
Ouais, tu vois.
Alors, je l'ai découvert pour quand on a tout préparé la programmation. Je le connaissais de réputation, bien sûr. Il y avait une très bonne cote. Des copains l'aimaient bien, d'autres trouvaient ça un peu pas terrible. Enfin bon. Et moi, en le regardant, je l'ai trouvé vraiment efficace.
Terrifiant.
Alors, terrifiant, non. Personnellement, j'avoue que moi, l'espèce de clown tueur, c'est pas vraiment ça qui me fait vraiment flipper. Je flippe beaucoup plus face à des premiers ministres qui dissout une assemblée nationale. À mon avis, ça me fait plus flipper qu'un clown tueur.
La réalité te fait plus
peur.
Ouais,
c'est un peu ça. Mais par contre, ce que j'ai apprécié vraiment dans Terrifier 2, et je comprends son succès pour ça, c'est que c'est un véritable film gore. C'est-à-dire que le scénario tient sur vraiment un timbre poste, c'est-à-dire le clown, il est là, il veut tuer tout le monde. Voilà.
Efficace.
Et c'est le prétexte à des scènes véritablement gore où on va dire explorer les différentes manières de comment on peut planter ça dans un corps, par exemple, ou comment on peut ouvrir un corps en deux, comment on peut faire ça avec un bras, enfin voilà, plein de choses, plein de choses comme ça. Et quand je dis gore, c'est vraiment en termes de tripes, de sang, de cervelle.
M'étonnes que tu prévois que tes gens sortent.
Et moi, ça m'a plu dans le sens où c'est quelque chose que on voyait plus trop dans le film d'horreur. Moi, ça m'a fait penser à Branded, à des choses comme où le gore des films italiens des années fin 70, début 80, du Vulci ou des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on n'avait plus trop dans le cinéma d'horreur actuellement, c'est-à-dire qu'on joue sur l'horreur, sur la peur, mais sur le côté horreur, gore, grand guignol, on l'avait plus trop.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que Terrifier 2, alors à la base, Terrifier, ce personnage de Art le clown, c'est un personnage qu'il a créé pour des courts-métrages, le réalisateur, qui ont bien fonctionné. Et le premier film, il l'a financé via du financement participatif. Et le premier a bien fonctionné. Le deuxième, c'est pareil, c'est du financement participatif. Alors, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de voir le 1 pour voir le 2. Il y a un petit lien comme ça à l'intérieur qui explique de comment le 2 rentre, on va dire, dans le 1. Enfin, voilà, mais il n'y a vraiment pas besoin de le voir. Du coup, c'est vrai qu'on est dans un truc un peu, c'est la grande kermesse. C'est Peter Jackson quand il fait Bad Test, ou Branded, c'est Reanimator. Voilà, c'est une sous-branche de l'horreur qu'on peut très bien ne pas apprécier, que moi j'adorais surtout adolescent et jeune adulte. C'est vraiment ce moment-là où on kiffe. C'est parfait pour un film de troisième partie, vraiment là, ce moment-là. Mais par contre, vous avez mangé un peu avant, vous attendez la digestion pendant le deuxième film, et pendant le troisième, vous évitez d'aller... voilà. Parce que on peut avoir l'estomac un peu fragile.
C'est vrai que j'ai vu le premier, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout.
Ouais.
Parce qu'effectivement, comme tu le disais très bien, moi, c'est un film que j'aurais aimé voir adolescent, en fait. Mais je ne sais plus ce que j'ai vraiment envie de voir dans les films d'horreur. Mais je comprends tout à fait de ce que tu dis, de c'est quelque chose qu'on ne voit plus, qui, effectivement, moi, je comprends complètement le succès du film aussi. Il y a un troisième qui est sorti récemment. On peut les retrouver sur Shadows, la plateforme française de films d'horreur, d'ailleurs. Moi, c'est là que j'avais découvert le premier. Et... mais ouais, c'est malsain.
Il y a un peu ça.
C'est dégueu.
C'est à la fois malsain et il y a à la fois le côté très grandiloquent. Bah ouais, la Grand Guignol. Ouais. Quand je dis Grand Guignol, c'est le théâtre du Grand Guignol, ce théâtre français, hein, puisque ça a été créé par la France et notamment sur Paris. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est à la fin du 19e et début 20e siècle. Et c'est vraiment un théâtre où l'idée était de créer des mises en scène, des petites histoires où à la fin, on coupe la tête. Enfin, on croit qu'on coupe la tête de la personne et il y a le sang qui gicle sur les trois premiers rangs. Quoi. Ouais. Et c'est de... Finalement, c'est un peu ça l'ancêtre du cinéma gore. C'est français, c'est le Grand Guignol. Et on retrouve avec ça. Et puis, j'aime beaucoup Art le Clown. Pour le coup, il y a le mec, il le tient bien avec ce sourire toujours figé, la manière dont il a de tourner les yeux. Il est à la fois hyper menaçant et à la fois très, très drôle dans ses mimiques, une espèce de personnage de cartoon, sans que ce soit ringard comme un Freddy Krueger, qui, plus on allait dans le film, plus ça devenait du n'importe quoi et vraiment du pas bon du tout. Ouais. Je trouve que Art, il le fait pas mal. Et puis, il y a une certaine inventivité dans la manière de tuer les gens. Et tout le monde y passe. Hein. C'est pas que...
Il n'y a rien à voir avec ça non plus. Hein.
Oui. Voilà, là,
c'est pas un clown qu'on a l'habitude de voir non plus.
Ouais, c'est pas une espèce.
Il parle pas en plus dans mon souvenir.
Comment ?
Il parle pas, je crois, ce
non.
personnage.
Non, premier, c'est vraiment un personnage muet, ouais. Mais muet. C'est même pas muet, on est plus dans le mime Marceau, tu vois.
Ouais, c'est
voilà,
ça, ouais,
c'est ça.
Complètement, ouais.
Et du coup, c'est vrai, justement, au niveau œil, enfin yeux, pardon, et la bouche, tout ça, il arrive vraiment à te provoquer le rire. Mais vraiment, le rire, histoire de 30 secondes, tu vois, avant qu'il commence à massacrer une ou deux personnes. Voilà. Pour un dernier film, c'est quand même assez...
Ouais, c'est
ça. Ouais, ouais, c'est... Ouais. Moi, j'aime bien... Mais le dernier film, on veut toujours mettre le truc fort, quoi. Mmh. Vraiment, le truc... Et l'année dernière, on avait mis L'Exorciste. Et j'aurais pas cru que ça cartonnait autant. C'est parce que les gens faisaient la queue dehors. La salle était remplie. Je suis quand même... Le film, il a 50 ans. Mais non, c'est vraiment le...
Ouais, et puis le voir en salle, quoi. Il y a ce pouvoir de le voir
faut voir L'Exorciste en salle. Hein. De toute façon, ça, c'est pareil pour Carrie. Mes arguments, c'est de se dire, Carrie, il faut le voir sur grand écran. C'est vraiment faire quelque chose. Ouais. Terrifier 2, quand même, tu te dis...
Et puis avec d'autres personnes. Enfin, voilà, cette idée de collectif aussi.
Voilà, collectif, ouais. De s'amuser autour de ça. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est un film qui fonctionne bien là-dessus. Mon rêve étant qu'un jour, on ait enfin Branded de dispo. Ouais.
Il est toujours pas...
Les premiers films de Peter Jackson, il veut pas. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a aucune copie, aucun droit pour passer les films d'horreur de Peter Jackson.
Je vous propose qu'on s'écoute le thème de Terrifier, du coup, le premier. Et puis après, comme ça, on conclura par toutes les animations. Voilà, tu pourras nous parler du décor. On parlera peut-être de la bande-annonce que vous avez faite. Et puis pour finir, des tarifs. Mmh. C'est parti.
We'll be right back.
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Donc, après avoir parlé de la programmation, on va parler des animations, puisque ce n'est pas que trois films que vous allez pouvoir voir ce soir-là, le 23 août, mais c'est aussi être dans une ambiance déjà de salle de cinéma, mais aussi les séances vont être animées avant les films, mais aussi à l'extérieur de la salle, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi une des traditions de ce qu'on voulait faire pour cette soirée, c'est qu'il y ait à la fois trois films, mais aussi des animations et plein de choses autour. Le point central, en fait, pour chaque année, c'est un décor qu'on crée sur une thématique différente, qui n'est pas forcément en lien, enfin qui n'est jamais d'ailleurs en lien avec ce qu'on passe comme film, parce que là, ça va, on se prendrait encore plus la tête. Ouais. Et c'est surtout, en fait, les thèmes viennent un peu quand on balance des idées, et puis à notre chef, notre chef décorateur, Frédéric Kerel, qui a toujours les idées qu'il faut. Et notre idée, c'est toujours de créer un grand décor où on peut se prendre en photo, tout ça, et aussi où on met des jeux à l'intérieur. Et cette année, on est en train de préparer plein d'épouvantails. Et il y a deux, trois petites photos qui circulent sur notre Facebook où on voit les préparations, je ne vous en dis pas plus. Enfin, allez les voir. Et c'est pas l'épouvantail du Magicien d'Oz. On est plus sur du Jeepers Creepers, par exemple. D'accord. Avec plein de trucs qu'ils ont trouvé comme idée. On va essayer de les mettre devant le cinéma quelques jours avant l'ouverture. Et j'aimerais bien mettre une caméra pour voir la tronche des gens qui passent du Ursuline, pour voir s'ils voient les épouvantails, juste pour voir leur tête.
Tu mets une caméra,
Non, mais il y a vraiment des trucs avec soit des masques, mais aussi des corps un peu, on voit les côtes, les trucs qui sortent, qui pendent.
Après, ça peut faire peur peut-être à des enfants, peut-être que vous
c'est
pouvez...
C'est très bien,
j'espère qu'ils aient peur. J'espère, il faut qu'ils apprennent dans la vie un peu.
Exactement.
C'est pas le monde des bisounours. Quoi qu'on, d'ailleurs, on avait pensé mettre un bisounours épouvantable et qu'il soit complètement rapetissé.
Les tripes qui sortent.
Mais pour qu'il paye, parce que bon, joli cœur. On fait plein d'épouvantails. C'est un gros travail. Là, les copains sont dessus. Et je me dis, chaque année, ils font des trucs incroyables. Et l'année suivante, ils font des trucs encore plus fous. Moi, je suis épaté. Ça, c'est notre gros décor. On fait aussi, il y aura à manger et à boire. On est sur des trucs très classiques. On va avoir du sandwich, des hot dogs. Ça s'appelait bien le hot dog. des doigts de sorcière, c'est notre petit dessert qu'on propose à la fin de la nuit. Des boissons, tout le truc très très classique sur lequel on s'amuse bien à tout préparer aussi. Il y aura à la fois de la viande, des trucs végans, on essaie de couvrir aussi large panel. Et on prévoit des jeux aussi. Alors il y aura un jeu dans le décor même qui consistera à... Alors il y aura des inscriptions sur les épouvantails ou autour, que vous ne voyez pas comme ça, mais que vous verrez à la lumière. On vous fournira des petites lampes UV. Et il y aura des inscriptions. Et c'est des indices pour trouver les titres de films.
Alors, c'est par exemple vous êtes allé loin, là.
C'est des indices, c'est-à-dire qu'on va... on va des trucs à l'envers, des rébus, des choses comme ça.
Trop bien.
On s'est vraiment marré à essayer de trouver les trucs pour trouver les titres de films. Voilà. Et on va faire un quiz, dans la salle. On va voir si... On l'avait fait il y a quelques années et ça plaît vraiment beaucoup parce que les questions apparaissent sur l'écran. On peut mettre des vidéos, des sons et puis les gens répondent avec leur téléphone portable. Ouais. On a trouvé apparemment une appli pas trop lourde comme ça, donc ça devrait bien fonctionner.
Il y a Kahoot qui fait ça.
Voilà, et on en a trouvé d'autres aussi avec plein d'options où par exemple on peut... relier telle arme à tel serial killer, des choses comme ça, pour trouver tel masque avec tel... Et ainsi de suite. Donc on a préparé tout un tas de questions aussi, et avec plein de lots à offrir. Un peu pour toutes les animations. On aura peut-être une surprise, mais j'en dis pas plus aussi. On est en train de négocier cette surprise. avec les gens de cette surprise pour faire cette surprise.
Alors, voilà. Mais qu'est-ce que ça peut bien être?
Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Mais vous verrez.
C'est que tu ne sors pas de ce studio avant de l'avoir dit.
Oui, mais a priori, de toute façon, je ne sors pas tant qu'on n'a pas modifié des horaires de certains films.
Ouais, effectivement.
Voilà. Mais j'ai reçu un texto tout à l'heure là, de ma collègue Rosine, et elle a marqué « va chier ».
Bon, voilà. Bon, bah, c'est foutu pour toi.
C'est fini. C'est fini. Voilà, donc on...
Puis nous, on peut camper, on est bientôt en vacances.
Ouais,
donc,
c'est ça, voilà.
Et non, je voulais peut-être parce que à la fois il y a toutes ces animations là dont tu nous as décrites, mais moi à chaque fois d'année en année, vous nous épatez par votre bande-annonce qui est de plus en plus, enfin je sais pas, vous mettez en scène, hein, faut le dire, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, c'est vous-même qui les salariés des studios qui alors des fois faut vous reconnaître, hein, parce qu'il y a quand même du maquillage et des déguisements, des personnages que vous campez. J'imagine que vous vous amusez bien à créer ça. C'est Franck, hein, Franck Ternier.
C'est ça. C'est la réal, c'est Franck Ternier. C'est lui qui arrive avec ses idées. Alors on lui propose toujours deux trois petits trucs selon les années, mais après il va avoir un peu les idées qu'il a. Il nous propose aussi un peu avec le monde qu'il y a aussi, parce qu'on n'est pas forcément tous présents. Et puis il monte ça, et puis à chaque fois il monte pour 3 heures de film, et on a au final une minute de bande-annonce. Et,
tu veux dire qu'il y a un bêtisier qui existe et qu'on n'a jamais vu?
Il y a un vrai making-of. non, en fait, je te dirais que pour celui-ci, il y aurait plutôt une version uncut beaucoup plus horrible que ce qu'on a mis à l'écran. Parce que,
et on veut voir ça, nous.
Parce que le truc, c'est que en fait, une année on fait drôle, et une année on fait pas drôle. Et cette année, on a décidé de faire vraiment pas drôle.
Ouais,
Et du coup, on a dû sélectionner les séances où on mettait la bande-annonce. Parce que là, franchement, je pense qu'on a eu...
Vice-versa 2, par exemple.
C'est passe-pas. Voilà. C'est, bizarrement, ça n'a pas plu. On leur a dit, mais si, ça aussi, c'est dans ton cerveau, c'est la peur.
C'est, non, mais même un petit truc en plus. Hein, ouais, tu ne vas pas forcément mettre ça devant un petit truc
marrant,
en plus.
Non, il est bien. On a tourné, on l'a fait de nuit. Donc, on a tourné à partir de 11h du soir jusqu'à 3h du matin, et dans la boue, tout ça. On est venu avec nos vêtements propres, non, il va falloir un peu les salir, donc on s'est roulé dans la boue, enfin des choses comme ça. C'est pour ceux qui, si vous voulez le regarder, il est sur notre Facebook des studios, il est sur le site des Cinéma Studios,
et sur
certaines séances il passe avec des messages subliminaux qu'on a mis, toi, des chiffres. On pensait même faire un quiz avec dessus, parce qu'il y a vraiment des petits mots qui passent, et on s'est aidé à trouver, mais en fait c'est hyper compliqué. Donc il y avait marqué peur 666.
Abonnez-vous au studio.
T'as piqué ma blague, je voulais la faire. Ça. Abonnez-vous.
Déplacez la date de belle pense.
C'est ça. Déplacez la date. Pas voter. Vu qu'on l'a pensé. Mais non, c'est vraiment. Ouais, celui-ci, il a été bien. C'est plusieurs petits tableaux. Et sur lequel des gens torturent d'autres gens. Et on a essayé de faire assez équitable avec des femmes qui torturent des mecs. Pas de jaloux. Faut pas faire jaloux à ce niveau-là. Mais du coup, justement, derrière, le plus flippant, c'est notre chef décorateur, là, Frédéric, qui est assez incroyable. Il fait peur. Moi, a priori, je fais peur, mais personne ne me reconnaît vu que j'ai un masque, ce qui est très bien. Pour une fois, je joue bien. Donc, c'est
vrai qu'il joue dedans, oui.
On a Manon, donc la personne qui gère tout le jeune public et les enfants qui est là. On a Pauline, notre assistante administrative, qui est là et qui est caissière. Enfin, voilà, tout le monde.
Il n'y a pas Manu, je sais
non,
plus.
Elle n'avait pas. Bah, quand on lui a dit 23h minuit,
je vais dormir.
Mais on essaie d'avoir justement les gens du studio, parce que c'est vrai que c'est un peu notre marque, et ça nous fait.
Peut-être qu'un jour il y aura Romain, votre nouveau directeur, dans la bande-annonce.
Cool. Ce serait cool, surtout. Il a un physique, on peut dire, et du coup, ça pourrait être intéressant à le faire.
C'est le 23 août. Et dans la continuité, en plus de ça, on a reçu Nicolas Martin il y a quelques semaines pour parler de Mauvais Tour. Mais ce qui est chouette, c'est que cette année, là, tout à l'heure, tu parlais de Mauvais Genre. Vous étiez dans la continuité de Mauvais Genre. Là, c'est Mauvais Tour qui sera dans la continuité de la soirée de l'horreur.
Exactement. Ça nous fait vraiment plaisir que ça se fasse, que ça se monte, que ce soit au studio aussi, qu'ils ont pensé à nous tout de suite quand ils ont eu tous ces petits gars qu'on connaît à droite et à gauche, et quand ils ont voulu remettre le couvert, on va dire, ils ont tout de suite pensé à nous pour accompagner le truc. C'est vraiment... moi, je suis hyper content.
On a hâte de voir la programmation. Hein.
C'est,
Et puis les noms aussi.
On sait, vu qu'ils l'ont annoncé, qu'il y a Sébastien Vanisek, le réalisateur de Vermine, qui était venu au studio pour présenter ce film, parce que c'est vraiment un film qu'on a adoré. On avait fait une séance avec lui, qui est incroyablement disponible et tout. Et si vous ne savez pas, c'est lui qui va réaliser le prochain Evil Dead.
Oui, c'est vrai.
Il bosse dessus. Il n'a rien voulu nous dire, donc on ne sait pas du tout. Il n'a même pas voulu me dire s'il y aura Bruce Campbell, mais bon, on verra bien.
Peut-être qu'il dira plus de choses au mois d'octobre.
Peut-être, on va lui donner 2-3 verres et puis on verra. Donc non, ça fait vraiment plaisir parce que, c'est ça. Mais ce qui fait que la soirée de l'horreur, petit événement au début, petit événement isolé au mois d'août, un peu perdu, parce que les premiers. Aujourd'hui, on a des gens qui nous disent qu'ils viennent tous les ans, c'est leur tradition. On revoit les mêmes têtes qui reviennent. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis, au début, c'est pareil, c'était un peu le petit truc des salariés. Maintenant, c'est vraiment compris
dans le reste de la
programmation et des organisations des cinémas studios. Les membres actifs bénévoles adorent ce qu'on fait. Bon, alors la plupart s'évanouissent si on leur parle de films d'horreur,
plein sont... Jean-François, je suis sûr qu'il regarde tous les films.
Jean-François a vu plein de films. Jean-François, pas tout, mais Caris, il aime et tout ça. On en a d'autres qui viennent. Moi, je sais que notre président, l'ancienne présidente des studios, Catherine Mellet, je suis quand même assez fier. C'était l'année dernière, elle était devant Le Retour des Morts Vivants. Et j'avoue, j'étais quand même content de me dire, Catherine, l'année dernière, c'était Le Dernier Train pour Busan. Donc il y a 2 ans, Le Retour des Morts Vivants. Donc c'est quand même cool, quoi, de voir ça. Et du coup, aujourd'hui, on se dit, c'est un peu, on va dire, le prologue avant Mauvais Tour, parce que quand même, on souhaite qu'ils s'inscrivent dans la continuité, parce que un festival comme ça, il faut que c'est super. Enfin, c'est super, c'est important, c'est un cinéma incroyablement vivace, et du coup...
Et puis ça va pas, en plus, Mauvais Tour va pas forcément se concentrer uniquement sur les films d'horreur, mais sur le genre aussi, fantastique, j'imagine, ça va être aussi un peu large sur le film de genre aussi. Donc,
Exactement, ils définissent le festival du film imaginaire, fantastique, imaginaire, donc c'est vrai qu'on va avoir une grande palette large, et ça va être... j'ai hâte.
Peut-être qu'on aura un début de programmation à votre nuit de l'horreur.
Peut-être, on va voir. Surprise.
Et en tout cas, dès qu'on a plus d'infos, évidemment, on le dira à l'antenne. Mais en tout cas, le crowdfunding, je crois qu'ils ont reprolongé encore. Vous pouvez aider le festival. Là, ils ont franchi plusieurs paliers.
Ouais.
Mais donc, c'est chouette. Ça montre qu'il y a un engouement autour du festival. Et ça va être chouette.
Je crois que le dernier palier là, à franchir, c'est pour avoir le village auteur.
Il y a le ciné-concert. Ils l'ont franchi.
Donc, il y aura un concert au bateau ivre. Et du coup, là, c'est pour le village auteur. Et ça, c'est pareil parce qu'on peut avoir. On peut faire un truc assez fou avec plein d'auteurs autour de ça qui peuvent venir. On a des éditeurs Tourangeau qui peuvent faire des choses.
Des éditeurs aussi de DVD spécialisés en films de genre.
Exactement. Il y a vraiment plein de trucs à faire.
Chouette. C'est chouette, on a fait toute l'émission autour de la soirée de l'horreur.
C'est parfait.
Tu vas même pas pouvoir faire ta chronique de films.
Même pas pouvoir parler des films que je n'ai pas regardés.
Que tu n'as pas regardé. Mais je suis contente qu'on ait fait toute l'émission. Comme ça, ça va pouvoir bien. Ça fait plaisir. On le rappelle. Pour conclure, peut-être les tarifs pour prendre les places. Est-ce qu'on peut voir juste un film, les 3 films?
Alors, on peut voir le film qu'on veut. On peut prendre le film à l'unité, soit directement au studio, soit sur Internet. Vous allez sur notre site des studios, vous cliquez sur le film, ça vous renvoie sur la plateforme Ticketing pour acheter votre place. Maintenant, si vous pensez voir 2 films, prenez le pass, c'est plus économique. On a 4 passes, enfin 4 formules, soit si vous avez plus ou moins de 25 ans, et si vous êtes étudiant ou minima sociaux, le moins cher, donc c'est 10 € pour les moins de 26 ans, ou minima sociaux et qui sont abonnés au studio. Ensuite, on a... Oh, attends, j'ai du mal à regarder mes petites notes. 13 € oui, si tu es abonné, tu as plus de 26 ans. 16 € si tu n'es pas abonné et que tu as moins de 26 ans. Et 19 €, si tu n'es pas abonné et que tu as plus de 26 ans. Mais même voilà, comme ça, 19 €, ça te fait... pour les trois films, ça vaut vraiment le... Ça
sinon,
vaut
tu vraiment t'abonnes. Voilà.
Ou tu peux t'abonner, tout à fait. Et le pass, lui, par contre, il n'est, vous ne pouvez le prendre qu'au cinéma studio. On ne peut pas, pour l'instant... Alors, cette année, non. L'année prochaine, je pense que ça sera possible. Mais à prendre au studio directement à l'accueil. On en voit, il est tout beau, tout joli.
Ça marche. Eh ben, on mettra tout ça dans le podcast de l'émission. On va se quitter là-dessus. Reggae Stories dans quelques instants. Et c'est la dernière fois voilà, qu'on va passer l'antenne à Reggae Stories, puisque, comme on vous l'a dit, la prochaine fois, ça sera le samedi. On passera l'antenne à personne, je crois. Ou peut-être qu'il y aura une autre émission.
Aux infos, je crois.
aux infos d'RFI. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette émission le jeudi soir. Mais voilà, encore une fois, pour des raisons. De planning, d'organisation, on préfère passer le samedi et je pense que l'émission va gagner en régularité. Ouais. parce que cette année, on s'en excuse encore, on n'a pas pu faire l'émission tous les jeudis soirs. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc,
c'est
Charles.
Très bien.
Et bah, tout de suite, Reggae Stories, et bah, au 31 août, du coup. Ouais. Bonnes vacances, belle été.
Bonnes vacances.
Au revoir.